t'entendre, tout aussi bien dans les multiples activités du SOS que justement dans des exemples concrets comme celui-là sur comment la lutte des femmes se continue, passer de main à main, de femme à femme, on voit que le mouvement féministe au Brésil est loin de s'éteindre, alors que tout le monde, nous ici, on pleurniche sur il n'y a plus rien à faire, ou on pleurniche ou on constate que le mouvement féministe en Europe est retombé platement, et que est-ce que c'est que toutes les femmes ont soi-disant tout compris et qu'il n'y a plus rien besoin de faire? Moi, j'en suis pas si persuadée. En tout cas, je t'ai trouvée assez choquée de voir ce qui se passait parmi les femmes ici, quand on a rediscuté un petit peu de contraception, de sida, etc. Tu étais assez choquée de voir comment les femmes réagissaient, non?
Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que nous, comme au Brésil, on travaille beaucoup la question de la contraception, hein, pour avoir l'information sur tous les moyens qui se disposent, pour avoir des bons soins médicaux et pour avoir surtout une notion de ce que les moyens contraceptifs fassent dans le corps. Moi, alors, je suis absolument étonnée d'entendre, par exemple, à Paris, j'ai rencontré une intellectuelle, professeure à l'université, spécialiste dans la Révolution française, etc., qui me dit très bien, non, moi ça va très bien avec la pilule, ça fait 10 ans que je prends, puis elle a dans les 35 ans. Et puis qu'elle n'ait aucune position critique, tout ça parce qu'elle n'a aucun effet secondaire. Je pense que c'est pas la première personne. Je sais que la vente de pilules, par exemple, a augmenté en France ces dernières années. Et puis j'ai l'impression que ça va pas du tout dans le même sens, parce que j'ai l'impression que quand même il y a eu depuis beaucoup d'années des enquêtes très sérieuses qui ont été faites sur l'effet de la pilule sur le corps. Et on voit que c'est un produit extrêmement toxique. D'accord, je suis sûre que les femmes européennes sont mieux nourries, ont plus de soins, elles peuvent facilement être plus assistées au niveau médical. Mais justement, j'ai l'impression qu'elles posent leur corps dans les mains du médecin, et puis voilà. Et c'est assez surprenant quand on sait qu'on doit de plus en plus renforcer notre terrain, renforcer notre corps, notre capital corps, renforcer notre énergie qui sûrement ne passe pas par des tonnes de chimie que l'on s'avale sans savoir exactement comment ça fonctionne, puisque je doute que les femmes qui prennent la pilule sachent comment fonctionne ça. Alors voilà, je pose mes questions là en me disant pourquoi est-ce que d'autres méthodes ne sont pas plus mises en valeur, comme par exemple le diaphragme qui est certainement au niveau actuel et qui est d'ailleurs reconnu par des grands spécialistes de technologie de la contraception, la méthode la plus saine qui existe. C'est pas une panacée, hein, le diaphragme, loin de là. C'est peut-être assez artisanal et assez archaïque, mais peut-être que c'est parce qu'elle est artisanale et archaïque que ça fait moins de dégâts dans le corps. Alors là, se posent de nouveau les mêmes problèmes que pourraient se poser au Brésil, je veux dire, au niveau des préjugés. C'est « Ouh là là, mais alors c'est compliqué, ouh là là, puis non, et puis faut mettre ça avant, ah, quelle horreur, etc. » Comme si on ne se pose pas des questions sur la sexualité comme quelque chose qu'on peut discuter, la contraception, quelque chose qui fait partie de ça, ou qui peut être simple. Qu'est-ce qui se passe, qu'on ne puisse pas arrêter l'élan du désir pour mettre un diaphragme, okay, enfin, qu'est-ce qui se passe, ou non, ça ne fait pas correct, ou bien... j'ai entendu quelqu'un, c'était marrant, qui disait « Oh non, dégoûtant ». Alors, je sais pas, ça me paraît tellement, justement, de nouveau un rétrocesse, hein, au niveau de la conscience de son corps, de sa sexualité, du bien qu'on peut avoir, de la valorisation qu'on peut avoir de son corps.
Bon, c'est vrai que ce genre de discussion-là, on remarque que c'est les mêmes difficultés qu'on a à discuter, par exemple, de préservatifs à propos de sida, etc. Donc, c'est vrai qu'autour de nous, certainement qu'il serait peut-être temps de proposer quelques groupes de discussion aux femmes qui, soi-disant, avaient tout résolu jusqu'à maintenant. Et nous, on avait fait une émission sur la contraception il y a une année à peu près. Et c'est vrai qu'on avait constaté que on n'avait pas l'impression d'avoir beaucoup résolu de choses, beaucoup avancé, que beaucoup de femmes proposaient maintenant la stérilisation comme fin de leur histoire. Donc, on retombe sur, sur des problèmes que vous rencontrez aussi au Brésil, cette façon un peu expéditive de régler la question. Et puis, ils se discutent plus grand chose. Et je crois que ça t'a pas mal frappé qu'à Genève, les femmes discutent plus grand chose.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'est assez grave, parce que c'est quand même un élément fondamental de la vie, la sexualité, le rapport avec l'autre et la reproduction. Enfin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me laisse perplexe.
Bah, espérons que dans nos échanges futurs, parce que j'espère bien qu'on refera des directs avec le Brésil.
Alors, tout à fait.
Et qu'on aura encore des visiteuses du SOS Corpo à Genève, et que tout ça nous permettra peut-être d'avoir les effets de l'un sur les effets sur les autres, et qu'on arrivera peut-être, un peu forte de votre expérience, arriver à reproposer quelques discussions, et peut-être par l'intermédiaire de Romu Ménage.
Merci Gigi de nous avoir accordé tout ton temps il y a une quinzaine de jours, juste avant de retourner au Brésil. Et à tout bientôt, effectivement, pour un nouvel échange entre Romu Ménage et le SOS Corpo. Peut-être bientôt aussi, en ce qui nous concerne, une discussion autour de nos micros sur, par exemple, pourquoi pas, notre sexualité et le sida. Pour finir, une chanson fétiche du mouvement des femmes au Brésil, Maria sempre calada, Maria toujours muette, mais qui, bien sûr, a ouvert la bouche très vite, par Maria Bethânia.
Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. A marisca da loja é muito prosa, mentirosa, mas é gostosa.
Pas boire dans mon verre, tu peux me pleurer des rivières, pleurer des rivières, j'en ai pleuré pour toi naguère. Et salut gueule d'amour, tu m'as joué, tu perds. Alors va me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. Tu m'as cassé, presque cassé le cœur en deux. Il s'en est fallu de peu. Tu te rappelles, je me rappelle, quand tu disais, l'amour c'est imbécile, l'amour c'était pas pour toi. Et adieu, gueule d'amour, j'ai besoin de changer d'air. alors vint pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, à quoi ça sert?
C'était Victor Laszlo, Pleurer des rivières, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir des mots pour qui veulent dire quelque chose, me diriez-vous? Eh bien, je serais curieux de vous poser cette petite devinette qui peut-être vous fera gagner le cadeau surprise de Marianne. Alors voilà ma devinette. Quel mot auriez-vous dû employer vu que vous, vous avez le courage d'appeler un chat? Ce qui n'est pas tout à fait le cas de M. André Nuzelet de la Tribune de Genève dans cette édition du 17-18 septembre. Jugez-en plutôt. Qu'est-ce qu'un pays institutionnellement restrictif vis-à-vis de la liberté d'expression, selon vous? Alors, vite, un numéro de téléphone.
Le
Marianne.
023 50 40 51 41. Tu nous rappelles peut-être la question.
Donc, ma question, quel mot auriez-vous dû employer à la place de la périphrase suivante, vu que vous avez, vous, le courage d'appeler un chat ? À la place de pays institutionnellement restrictif vis-à-vis de la liberté d'expression. Monsieur André Nuzelet parlait à ce moment-là, je vous aide un petit peu, de la Corée du Sud.
Alors donc, un numéro de téléphone, le 023 50 40 51 41. Et comme chaque fois que vous participez à un de nos grands concours, nous avons de nombreux cadeaux. Il se trouve que vous êtes de plus en plus fort. On en distribue tellement qu'il en reste peu. Alors aujourd'hui, nous offrons soit une brosse à dents, soit encore nous avons un supplément de la tribune justement du week-end dernier, très intéressant. Et en troisième prix, c'est notre cadeau surprise. Romu Ménage sur Radio Zone 93.8.
Maturité à la vie.
Julia Bell qui chantait en ce moment sur Radio Zone 93.8. Vous vous souvenez, la semaine dernière, là, on parlait des chats, en effet, SOS Chat qui est en train de se mobiliser, qui trouve de plus en plus de militants. Alors, bon, nous, on avait l'air de rigoler comme ça, mais ça ne nous fait pas tellement rigoler que ça. Alors, bon, on s'est quand même posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour les chats? Alors, bon, on a pensé au cinéma, ils ont fait Chatran, mais bon... On n'a pas vraiment compris si c'était pour les chats. Je crois qu'il y en a plus qu'on périt. Hein. Alors, bon, on a réfléchi et on a trouvé. Alors, aujourd'hui, un disque pour les chats et les chattes. Alors, pour Cerise, Oscar et les autres, c'est notre petite contribution à SOS Chat. Non, on ne s'impatiente pas, ça vient.
Marianne, à part militer à SOS Chat, qu'est-ce qu'il y a à faire à Genève en ce moment?
Inutile de dire, surtout que quand on parlait du Brésil l'année dernière, enfin la semaine dernière, on a fait un appel afin qu'on nous envoie un billet d'avion pour le Brésil. On ne l'a pas fait. Puis moi, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose pour que nous puissions aller au Brésil. Alors, en plus de militer pour les chats, j'ai fait tous les concours idiots qui me passaient sous la main pour gagner quelque chose. Évidemment, je n'ai encore rien gagné. Pensez à moi hein, si vous gagnez un billet. Et sinon, alors bon, ben, je me suis baladée un peu à Carouge. J'ai été à la galerie carougeoise de La Fontaine, où expose en ce moment la section genevoise de la Société suisse des femmes peintres, sculpteurs ou sculptrices. Alors là, il y a un large débat qui est entamé, mais on ne sait pas lequel. On ne sait pas se décider, je veux dire, et décoratrice. Enfin bref, cette société expose en ce moment à la galerie carougeoise de La Fontaine. Il y a 10 femmes peintres et une sculptrice. Il était difficile de donner la parole à toutes. Alors j'ai pris le parti, en fait, de me renseigner et de savoir à quoi correspondait cette section genevoise de la Société suisse des femmes peintres, sculptrices donc et décoratrices. Alors là, 4 femmes sont réunies autour du micro pour en parler. Comment est née cette envie de se regrouper au sein de former une association des femmes peintres, sculpteurs et décoratrices?
C'est parce qu'au début du siècle, les messieurs avaient une société des peintres, sculpteurs et architectes, mais que les femmes n'étaient pas admises dans cette société. Alors en 1902, à Lausanne, elles ont formé une société romande des peintres et sculpteurs. Les décorateurs ont été admis que plus tard. Mais en 1907, elle avait déjà 4 sections, Berne, Genève, Vaud et Neuchâtel. Et plus tard, en 1908, elle prendra son titre actuel. Et nous, à Genève, nous sommes donc la section genoise de cette société des femmes peintres, sculpteurs et décorateurs.
Et quels sont les statuts particuliers? Est-ce que tout le monde on peint? Est-ce qu'on peut faire partie de cette société?
Non, il faut passer un jury. Il faut quand même faire preuve de professionnalisme et surtout d'activité. Il faut être en activité, il faut produire, il faut faire de la recherche. Il faut quand même montrer.
Qu'est-ce que c'est que faire preuve de professionnalisme? C'est gagner sa vie de sa peinture?
Non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de nos artistes qui puissent vivre de leur peinture. Elles ont toutes des professions annexes, où elles sont mariées, où c'est plus difficile. Mais le professionnalisme, ça serait encore un discours encore plus compliqué à entamer. Ça serait trop long.
Tout à fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 1988, une société des femmes peintres, sculpteurs et décoratrices a encore sa raison d'être ?
Bien sûr, car nous sommes solidaires entre nous. D'abord, nous avons un comité qui essaye de faire le plus d'expositions possible, de trouver des locaux, ce qui n'est vraiment pas évident à Genève. Et en plus, nous avons quand même tout le soutien qui n'est pas seulement moral. Nous avons un fonds de secours. Chaque fois qu'il y a une vente qui est faite dans notre société, ou même dans une autre exposition, nous devons verser le 2% à la société centrale, et ça forme le fonds de secours. Quand une de nous est dans le besoin, elle fait une demande et on lui donne ou une bourse ou un logement, ou il y a de l'aide. Et nous avons aussi une caisse maladie et qui paye quand on est par exemple malade, qui peut payer des indemnités journalières pour pallier cette chose-là.
Alors, cette année, donc, en ce moment, vous exposez la galerie Carougeoise de La Fontaine. Il y a, je crois, 10 femmes peintres et une femme sculptrice ou sculpteur. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, qui expose. Alors là, je suis entourée de 3. Il y a Yolande Pastré, c'est ça, Eva Sarro et Dominique Taparel. Moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, Eva, je crois que tu es nouvelle dans cette société. Pourquoi, toi, tu as adhéré à cette société, à ce collectif ?
En fait, il y a plusieurs... Je crois qu'il y a 2 ans environ, je cherchais un atelier pour faire de la peinture. Et je me suis demandé peut-être qu'une association de femmes pourrait me renseigner. Et cette association de femmes m'a parlé de la Société suisse des femmes peintres. Et j'ai contacté la présidente. Elle a vu plus tard mon travail et elle m'a proposé de joindre la société. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. Et voilà, depuis, j'en fais partie. Enfin, je suis candidate depuis ce moment-là.
Et toi, Dominique, est-ce que le fait d'adhérer à cette société te motive dans ton travail, te stimule ?
Non, je ne pense pas que ça change beaucoup de choses par rapport à mon travail. Je suis aussi rentrée un peu dans la société par hasard, parce que lors d'une de mes expositions, j'ai rencontré des femmes qui faisaient partie de cette société. Et je me sentais un peu seule, disons. J'avais envie de communiquer, de parler un peu du travail que je faisais avec d'autres artistes. C'est un peu pour ça que je suis rentrée dans la société, mais ça ne change pas, disons. Je pense jamais que je fais partie de la Société suisse des femmes peintres.
Et Yolande, j'aimerais savoir, vous par exemple, est-ce que pour exposer, vous y trouvez des facilités, le fait d'être dans une association ou bien...
Comme j'étais au fond relativement nouvelle à Genève, j'avais besoin de contacts avec des peintres et aussi pour organiser des expositions, j'ai pensé que par la société, il y aurait au moins quelques collectifs qui commenceraient à m'aider à montrer mon travail. Et par la suite, connaître des lieux d'exposition.
Et je reviens à la question que je posais avant. Pour vous, est-ce que c'est important que dans cette société, il n'y ait que des femmes ? Ou bien, bon, bah, c'est comme ça parce que c'est un fait ?
Ah non.
Non, en fait, moi, j'étais un peu gênée au début, justement, par cette idée de femme peintre. Je me disais, pourquoi femme peintre ? C'est peintre, et puis c'est tout. Puis bon, cette idée de femme peintre me dérange un petit peu, je dois dire, moi, personnellement, parce qu'on est des peintres, pas forcément des femmes peintres. Mais...
oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Dominique dit. Souvent, les gens aiment bien regarder est-ce que c'est une peinture féminine ou masculine. Je trouve que là n'est pas la question, vraiment, parce qu'on a tous un tempérament où on a des côtés très calmes et des côtés beaucoup plus exubérants. De là à dire que c'est qu'une peinture de femme ou d'homme, je trouve que c'est un petit peu à côté de la question. Mais il y a une raison historique à cette société, puisqu'on a été refusé au début du siècle et jusqu'en 1973. Il n'était pas possible pour une femme de participer à la société des hommes, qui était de société peintre. Donc, il y a une raison historique à ça. Et pense que c'est compréhensible que ça continue encore, parce que les choses ne changent pas du jour au lendemain comme ça.
Et qu'est-ce qui vous paraît le plus fondamental à vous, Monique Tournier, dans cette société? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus important?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est surtout le contact que nous avons entre nous. Et je pense que, malgré... Taparel dit que ça ne change pas grand-chose faire partie de cette société. Je pense que de nous confronter l'une à l'autre, avec nos tempéraments, avec même nos œuvres qui sont très très différentes, je pense que c'est un enrichissement.
Voilà, nous étions donc à la Galerie Carougeoise de La Fontaine, où la société genevoise, la section genevoise de la Société suisse des femmes peintres, sculptrices et décoratrices expose. Nous étions là en compagnie de 4 artistes. Il y avait Monique Tournier, Eva Sarro, Yolande Pastré et Dominique Taparel. Expose également, il faut dire que Monique Tournier était là. Elle n'expose pas, mais c'est une très ancienne... membre de cette association, mais expose également Gracienne Nebel, Olga Reival, Thérèse Galiguri, Bozena Bic, Christiane Buller, Yuse Katilouté et Carmen Moras. Et Jo Chambrou, j'allais oublier, Chandru, pardon. Donc toutes ces femmes exposent à la Galerie Carougeoise de La Fontaine, 24 rue Jacques d'Alphin à Carouge, et ceci jusqu'au... Je vais vous le dire tout de suite, 1er octobre 88.
On vous laisse deviner quelle est cette voix divine pour conclure le remue-ménage d'aujourd'hui. Et nous attendons toujours le résultat à notre devinette, 2 devinettes en un jour. Waouh!
Peut apaiser dans la folle en baiser.